Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe.
Bonjour et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir un nouveau lieu d'exposition situé en plein centre de la ville de Nantes, au 19 rue des Carmélites. Il a ouvert en octobre 2023 et s'appelle la Scroll Gallery. Cette galerie est aussi une association porteuse de projets dans leur lieu et en dehors. Elle a été créée par Wilfried Pasquier et Annelise Le Dot, et elle est également gérée par une salariée qui s'appelle Élise Bergonzi. Nous allons aller à leur rencontre pour qu'ils nous présentent la Scroll Gallery, l'association, l'histoire et le futur du projet. Et nous en profiterons pour visiter l'exposition en cours qui s'appelle Sans titre et qui présente les œuvres et le travail de l'artiste Gaspard Girard d'Albissin. Allez, c'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Ok, donc on vient d'arriver à la Scroll Gallery, donc 19 rue des Carmélites à Nantes, et on va aller retrouver Wilfried Pasquier, Annelise Le Dot et Élise Bergonzi. Donc on va aller à leur recherche, c'est tout au fond de la galerie. Bonjour. Alors, donc je viens d'arriver à la Scroll Gallery. Donc merci de m'accueillir. Donc déjà l'idée c'est de parler de ce nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Nantes, qui a été ouvert donc il n'y a pas très longtemps. Et puis après on parlera un peu plus de l'exposition en cours qui s'appelle Sans titre de Gaspard Girard d'Albissin. Donc je vous laisse un petit peu la parole, vous présenter et puis présenter la galerie et le projet. Et voilà.
Moi je suis Annelise Le Dot. Donc je tiens la galerie avec mon partenaire Wilfried Pasquier à côté de moi et Élise Bergonzi aussi à côté. Et cette galerie a ouvert le 13 octobre dernier, mais il y a tout un parcours antérieur de recherche de lieux et, qui précédait. Et du coup ce lieu ici était un ancien atelier d'artistes. C'était une peintre aquarelliste qui occupait cet espace et qui était aussi du coup plus ou moins abandonnée ces dernières années parce qu'elle avait des soucis de santé. Et à l'époque, elle avait l'habitude d'accueillir des étudiants de l'école des Beaux-Arts à l'époque où l'école était dans le centre-ville de Nantes. Et donc, elle partageait son atelier aussi avec des jeunes et elle était très heureuse que ça reste un lieu d'art.
Donc moi, comme vient de le dire Annie, je suis Wilfried Pasquier. J'ai fondé en 2018 le fonds de dotation Catapulte. C'était un fonds pour l'art contemporain, pour soutenir la création émergente. Il y avait différentes formes de soutien. C'était vraiment l'aide à projet, l'aide à la production. On a même fait de l'édition. Et ce projet s'est voulu au début plutôt nomade. On n'avait pas de lieu fixe. Donc on a fait des expositions à Marseille, Arles, Paris, même à l'étranger. Et l'idée, c'était de se greffer à des événements plutôt majeurs de l'art contemporain et d'investir des lieux en devenir ou des lieux vacants et de proposer une autre vision de l'art contemporain. Et tout de suite, il y a un réseau qui s'est créé. On a invité donc des jeunes curateurs, curatrices à travailler avec nous pour présenter ces projets. Donc on a fait ça pendant 6 ans et comme l'a dit Annelise, on avait toujours quand même cette envie de trouver notre lieu à Nantes, puisque ça fait 20 ans que nous sommes à Nantes, et d'avoir un lieu pérenne ici pour avoir plus de liberté pour faire nos expositions, et pérenniser nos actions, tout en gardant, comme on l'a fait avec Catapulte, cette diversité dans la proposition, que ce soit des expositions plus formelles, comme là vous allez voir avec Gaspard, ou alors des expositions plus collectives, plus engagées, comme on l'a fait précédemment avec Anno Corliken, où Élise et Annelise ont curaté cette exposition. Et aussi, on a des propositions d'expositions hors les murs, c'est-à-dire on garde l'identité, ce que faisait Catapulte avec des projets hors les murs, vraiment hybrides, en investissant des lieux, soit qu'on loue, alors qu'on nous prête, vraiment hors les murs, hors de la galerie. Et donc ça, c'est cette action-là, enfin ces actions-là vont être pérennisées aussi sur le territoire nantais ou ailleurs. Là, avec toute l'équipe, on part à Bruxelles au mois d'avril pour vraiment essayer de dénicher des nouveaux lieux. Et toujours travailler cette porosité entre l'art contemporain, la musique et le spectacle vivant.
La Scroll, c'est le lieu de la galerie, mais c'est l'association Catapulte qui reste opératrice.
Non, là, ouais, là, on va parler plutôt administratif et fonctionnement. Le fonds de dotation Catapulte, il n'a pas de subvention publique, puisqu'il n'est pas éligible à des subventions publiques. C'est moi, Wilfried Pasquier, qui abonde sur ce fonds. Et comme là, on a créé un lieu, celui-là a un statut associatif. Puisque, comme je viens de le dire, on a vraiment une diversité de propositions artistiques. On a un projet notamment avec le quartier des Lavallières pour les faire venir dans l'exposition. Donc, faire venir tout type de public dans cette galerie nous intéresse. Et donc, il y a des dossiers de subvention qui ont été déposés à la ville, à la région, pour voilà, essayer d'avoir des aides. Alors, actuellement, nous n'avons pas d'aide, mais on a demandé. Donc, pour répondre à ta question, l'association fonctionne avec le fonds de dotation. C'est le fonds de dotation, en fait, qui abonde et qui permet à l'association de fonctionner. Et c'est sa seule source de revenus à l'heure actuelle.
Pour l'instant,
puisque là, cette expo, les œuvres sont à vendre, c'est-à-dire qu'on s'essaye aussi au modèle de la galerie, pour faire rentrer de l'argent, tout simplement.
Donc du coup, la Scroll est une association et une galerie, mais n'est pas...
Une association à but non lucratif, c'est-à-dire toutes les œuvres qui sont vendues permettent le fonctionnement de l'association.
Voilà. Puis aussi, avoir ce modèle de galerie permet aussi de jouer le jeu du professionnel et d'apporter une rémunération aussi aux artistes, quoi, tout simplement. Ça, c'est un truc, je crois, qui nous tient quand même à cœur.
Toutes les expos que je fais depuis 8 ans, tout le monde est payé, après avec ce que je peux leur donner, mais tout le monde est payé et ça nous tient à cœur. Donc les recettes des ventes permettent le fonctionnement de la galerie et au fonctionnement des expositions.
Et donc, vous êtes des amoureux de l'art, mais pas artiste, ou vous avez une pratique ?
Je laisse la parole à Anise, qui a une pratique artistique.
Alors, moi, j'ai une pratique artistique secrète, mais qui, avec Wilfried, on s'est rencontrés via cette passion commune, parce qu'on est couple dans la vie. Et donc, moi, j'ai une pratique secrète et qui nous poussait, soit Wilfried, via son fonds de dotation, et moi, via ma pratique, à aller toujours découvrir des nouveaux artistes, se créer des références. Mais pour l'instant, ma pratique reste toujours secrète.
Ça marche. Et donc, on est avec vous deux et on est aussi avec une troisième personne qui est Élise, qui travaille à la Scroll. Élise, je te laisse te présenter.
Bonjour. Donc, Élise Bergonzi. Merci pour cette interview, déjà. Moi, j'ai un parcours un peu différent de celui de Élise et Wilfried. Je suis arrivée à Nantes il y a maintenant 8 ans. Je fais les Beaux-Arts, aux Beaux-Arts de Nantes. Et après un rapide passage d'un an en Islande, je suis revenue sur ce terrain qui est un terrain de jeu que j'apprécie beaucoup. Et j'ai rencontré Wilfried et Anne-Lise, donc après mes années de Beaux-Arts. Donc j'ai à la fois une pratique artistique et une pratique de curation en indépendant. Et je les ai rencontrés sur un festival qu'ils organisaient cet été, via donc ce fameux fonds de dotation en art contemporain Catapulte, qui s'est tenu dans les Halles, en face des Beaux-Arts de Nantes, justement. On s'est rencontrés un peu par hasard, amis d'amis, connaissances, moments convivial. On a commencé à travailler ensemble, je les ai aidés bénévolement sur cet événement. Et à la rentrée, donc quand ce lieu de la Scroll Galerie a vu le jour, Wilfried et Alice avaient besoin d'une équipe et avaient envie de travailler à plusieurs. Et ils m'ont donc proposé de venir tenir le poste d'assistante de galerie, de coordinatrice, de présence quotidienne aussi pour faire la gestion des publics, la gestion aussi du quotidien de la galerie, de l'organisation, la co-curation. Il y a un peu de tout.
Son poste, en fait, son poste est à l'image en fait, de Catapulte, il est vraiment hybride. C'est-à-dire qu'Élise, là, elle était avec nous en visite d'atelier, c'est-à-dire qu'elle fait de la curation, elle fait de la médiation, elle fait de la relation avec les artistes, elle fait tout ce qui est administratif, les dossiers, enfin, le droit propriété intellectuelle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça.
Tout ce qui est les contrats voilà, avec les artistes, toute la partie aussi administrative. Il faut savoir aussi, je pense que c'est très important, ça a quelque chose de social aussi, cet espace dans l'art contemporain, dans l'économie de l'art contemporain, social à la fois au sens du public qu'on invite, et on veut, Wilfried le disait très bien, un tout public, c'est très important pour nous, mais aussi dans la relation sociale qu'on entretient avec le milieu de l'art et ses actrices, puisque la galerie, en tout cas jusqu'à ce jour, travaille beaucoup avec des jeunes artistes, beaucoup de créations émergentes. C'est quelque chose qui est important pour nous, ce soutien-là, à de nouvelles formes, à de nouvelles pensées. Et au-delà de la forme et de la pensée, il y a aussi des gens derrière qui travaillent dans ce milieu. Et donc, il y a aussi un accompagnement qu'on veut important, présent, pas seulement sur la rémunération lors de ventes, où tout simplement les artistes sont déjà rémunérés pour faire chaque exposition, mais aussi sur l'accompagnement, à faire des contrats corrects, à avoir une éthique en fait dans la manière dont on relationne avec les personnes impliquées dans nos expositions. Toutes ces personnes, que ce soit monteurs, monteuses, s'il y en a, artistes, plasticiens, plasticiennes, performeurs, performeuses, des concerts aussi, tout le monde, on essaye de faire en sorte que ce soit une économie artistique, mais aussi sociale.
Vraiment, c'est vraiment un axe très important de cet espace. On l'a pensé un peu comme une safe place, un lieu d'expression, un bac à sable de liberté. Et ce mot scroll, qui vient du terme scroller, ce nouveau mot qui décrit ce comportement face à l'image qu'on a chacun, chacune. On avait envie d'inscrire ça sur la façade de notre galerie comme une prise de conscience directe de notre manière de vivre et de consommer de façon boulimique l'image aujourd'hui, et un besoin de prendre le temps et d'apprécier justement les propositions qu'on souhaite être diverses et libres ici. Mais en tout cas, oui, dans ce côté de l'accueil des artistes, faut savoir qu'Élise est une professionnelle de l'art qu'on a agrippée avec nous dans ce projet. Mais moi, je tiens un salon de coiffure. Wilfried est dentiste. En fait, c'est vrai, quoi. Il nous a fallu du temps pour oser rentrer dans des galeries, casser des fois, s'autoriser, se sentir légitime de rentrer des fois dans des milieux qui peuvent paraître hermétiques. Et les gens qu'on invite ici, c'est aussi, ils ont un besoin d'exprimer la vie contemporaine et toutes ses complexités. Et ça, on le porte, et il y a une envie aussi cathartique de les montrer et de se faire du bien en montrant ces voies-là. Et quand on invite des artistes, et surtout sur des expositions collectives, potentiellement chacun, chacune partage une politique ou une poésie commune. Donc cette histoire de l'accueil des artistes est primordiale pour nous, parce qu'il est important pour nous qu'on ne consomme pas l'accrochage de leurs œuvres, et qu'ils se rencontrent, qu'on se parle, et qu'on évoque tout ça ensemble aussi, quoi.
Voilà. C'est quelque chose qu'on fait pour un peu rentrer aussi dans les détails finalement de cette relation. Ça peut être tout ça n'est pas si compliqué en fait, et ça passe par le fait d'avoir une invitation très claire et très présente, de dire aux artistes on veut absolument que vous veniez au vernissage, que ce soit pour les collectives ou pour les solo shows, qu'il y ait du partage. Et pour ça, qui marche très bien sur les collectives, entre artistes, c'est quand même très bien quand elles ne se connaissent pas, pouvoir échanger au moment du vernissage, rencontrer le travail des uns et des autres. On fait aussi venir des artistes de différents horizons. On travaille pas seulement sur le territoire nantais. On aime bien les Nantais et les Nantaises. On en expose et on va continuer d'en exposer, parce qu'il y a un chouette terreau. Mais on ne se prive pas d'aller chercher des gens qui viennent d'un peu partout. La dernière exposition collective, pour exemple, qu'on a réalisée, on avait deux Nantais-Nantaises, on avait une artiste suisse, qui travaille en Suisse actuellement, et une ancienne des Beaux-Arts de Nantes, d'ailleurs, de longue date, mais qui aujourd'hui est en Suisse, pas mal de Parisiens, Parisiennes, et une artiste qui travaille en ce moment à Marseille. Voilà, c'est... Et Strasbourg, en effet, j'ai oublié Strasbourg, en effet Strasbourg. Donc on s'est un peu baladé sur tout le territoire français, voire même un peu plus loin jusqu'en Suisse, et on n'est pas fermé à aller chercher même un peu plus loin si les occasions, les coups de cœur se présentent. Donc c'est un bon moyen aussi d'avoir des rencontres.
Nos expos durent à peu près 6 semaines, là, c'est le rythme qu'on s'est donné, et on essaye de ponctuer nos expositions par un vernissage, donc avec une performance et ou un live. qui puissent bien se répondre. Et là, pour la dernière expo, donc à nos corps lesquels, on a même fait, au cours de l'exposition, une autre soirée performance. On a invité une artiste et un live. C'est vraiment l'idée de rythmer les expositions, toujours avec cette hybridation et...
Créer des cohérences aussi dans différents, je dirais, dans différents secteurs de l'art aussi, parce que les arts plastiques parfois sont un peu, notamment dans les galeries, donnent cette impression, comme tu disais Alice, d'herméticité, enfin quelque chose de très fermé, de très léché, très propre, un peu lissé, et amener du vivant par des lives, des performances et des gens qui sont vraiment sur place et interagissent avec le public, ça permet voilà, une énergie qui serait peut-être pas là sans ça, qui est importante pour nous.
Bah, c'est ce qu'on avait lancé quand même avec le festival Ex Vitro dont on parlait tout à l'heure. C'était vraiment d'amener les lives et les performances au sein même de l'espace d'exposition. Et je pense que c'était une idée assez intéressante et qu'on souhaite développer. En tout cas, sur chaque exposition, tous les trois, on travaille sur une scéno, comme l'a dit Alice, que ce soit avec un live ou une performance.
Créer de l'événement dans l'événement, créer du corps, appeler les gens à s'installer aussi pour vivre différents moments dans un même lieu, découvrir, parce que le travail d'un musicien peut potentiellement apporter une autre clé, une autre lecture au travail du plasticien, qui seraient accrochés ou exposés dans une même salle.
Puis la performance, c'est l'instant. À l'heure actuelle, comme on dit, scroller, c'est aujourd'hui, de nombreuses personnes voient les expos sur Instagram. C'est un fait, parce qu'il y a une abondance aussi de propositions. Et aujourd'hui, quand tu fais une performance, il faut être là. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire, si tu fais une performance en live, il faut le vivre en direct, il faut être là.
C'est pas mal comme conclusion.
Vous êtes toujours dans « Ceci n'est pas une pipe ». L'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. Nous sommes en train de découvrir la Scroll Gallery en compagnie d'Annelise Le Dot, Wilfried Pasquier et Élise Bergonzi. Nous allons écouter un morceau diffusé lors du concert live du 13 octobre 2023 pour le vernissage de l'exposition Caput Mortuum d'Oscar Lefebvre et l'inauguration de la galerie. L'enregistrement de l'album a été fait dans la galerie quelques jours après le concert. Le morceau s'appelle Les enfants n'aiment pas le jazz, entre parenthèses avec Stéphane Tidé, par Magicien Windows.
On va essayer de comprendre les relations entre les notes. On va voir pourquoi donc les enfants n'aiment pas le jazz en général. Donc si tu aimerais trouver les accords d'une musique à l'oreille sans forcément passer par la partition ou la tablature, si tu aimerais comprendre les relations qu'il y a entre les notes pour pouvoir faire des mélodies plus sympathiques, des harmonies plus riches et complexes, si tu te poses toi aussi la question de savoir pourquoi est-ce que les enfants n'aiment pas le jazz, après tout, et si tu as envie de développer ton oreille et d'arriver à entendre les sons avant que tu les joues sur ton instrument, ce qui est très utile pour l'improvisation, parce que si tu joues avant d'entendre, ça te permet de savoir où tu vas dans ton improvisation, ça te permet aussi de faciliter l'inspiration, puisque si tu as des notes dans ta tête, tu peux tout de suite créer quelque chose sans avoir forcément besoin de tâtonner ton instrument, et bref, ça facilite la composition en général. Donc si toute cette thématique t'intéresse, continue à regarder la vidéo, parce que ça va se passer maintenant. Donc pourquoi les enfants n'aiment pas le jazz, ou plus généralement, pourquoi les enfants n'apprécient pas la musique classique plus contemporaine, la musique expérimentale, toutes les musiques drone, le métal, le jazz, donc tous ces styles de musique plus complexes et plus recherchés, pourquoi les enfants n'apprécient pas ça? Et bien en fait c'est assez simple finalement, une fois qu'on a vu la logique derrière, tout de suite tout paraît tout souvent clair. Mais qu'est-ce que c'est cette logique? Le cerveau aime quand il comprend ce qu'il perçoit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il ne comprend pas la perception, ou s'il n'arrive pas à l'intégrer et à la mettre dans une catégorie, à la savourer, il va la rejeter purement et simplement, ou il va la mettre dans une case, dans la case problème, et dans la case je n'aime pas et ça me dérange.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur Jet FM 91.2. Nous sommes en train de découvrir la Scroll Gallery en compagnie d'Annelise Le Dot, Wilfried Pasquier et Élise Bergonzi, qui nous présentent le projet associatif et le lieu d'exposition. Du coup, vous avez parlé un petit peu de la programmation, en tout cas, du fait qu'il n'y avait pas de barrière au niveau de zones géographiques. Et comment vous fonctionnez pour la sélection du travail des artistes dans les sujets qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes? Comment vous fonctionnez entre vous trois? Tu parlais de curation. Voilà, ça m'intéresse un peu de savoir.
Le premier truc qu'on peut dire, je pense que c'est le coup de cœur. Avant de se poser mille questions,
moi, en tout cas, la personne,
voilà, c'est ça.
Pas que le travail. Le travail évidemment compte, mais surtout comme
avec l'humain. Ouais. Ouais. On n'a pas de médium de prédilection. Ça aussi, c'est important de le dire. On va avoir des successions d'expositions de peintures, de sculptures, de photographies. On parlait de performance, il va y avoir un peu de tout, qui permet aussi de ne pas avoir de redondance et de ne jamais s'ennuyer. Donc pas de médium de prédilection, une attention à la jeune création, et après des rencontres. On se déplace beaucoup dans les ateliers des artistes, on regarde aussi beaucoup d'artistes sur Instagram, on ne va pas se mentir. Mais voilà, on se déplace, on va voir les expositions, on va voir ce que font des collègues et des gens qui travaillent aussi dans ce milieu et qui ont aussi de très belles initiatives. Ça donne des idées, ça crée des rencontres. Et c'est sur ces rencontres que se passent beaucoup de choses, et notamment la programmation.
Et puis, comme l'a dit, tu ne l'as peut-être pas signalé, mais Élise est aussi en formation à Paris, à l'École des Beaux-Arts, pour être curatrice.
C'est une formation un peu particulière. J'entre dans ma énième, huitième année d'études. En fait, c'est un post-master qui s'appelle Artistes et métiers de l'exposition aux Beaux-Arts de Paris, et qui me permet de compléter les acquis que j'ai en curation, via un travail indépendant et via aussi ce que j'ai pu faire justement en partant un an en Islande, comme je l'évoquais plus tôt. Et en fait, via ce master qui se terminera en juin. Ce post-master me permet en fait d'être 2 jours par semaine à Paris, et bien que ça me chiffonne un peu de le dire, il reste vrai que la scène parisienne est plus active parce qu'il y a plus de monde et plus de propositions, c'est plus développé. Donc c'est une scène qui reste intéressante, même si un peu autocentrée parfois. Et elle me permet donc de faire beaucoup de choses, d'aller voir beaucoup de choses, de rencontrer aussi beaucoup et de revenir avec des petites idées, des propositions.
Mais tu reviens avec des idées, mais elle permet le rayonnement aussi de la Scroll Gallery sur la scène parisienne. C'est quand même intéressant de le signaler quand même.
Rayonnement, peut-être que c'est un peu
c'est fort,
mais
on a de l'ambition.
Je pense que c'est un petit peu fort. Non, mais l'ambition, par contre, qu'on partage tous les trois très fort, c'est de ne pas avoir les pieds dans... de ne pas rester encroûté ici. Et on a envie d'être un peu à l'affût. Et je crois qu'on est tonique tous les trois. Et voilà, il y a ce plaisir de chercher, de bouger et de se dire que c'est possible d'aller... l'année dernière, pour Exitro, on est allé dans l'atelier de Lou Masturo à Genève. Ouais. Et on s'est dit, bon, allez, on a envie d'y aller. C'est l'occasion d'aller faire de la rando à côté. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas se limiter et puis pas se fermer, surtout. Quoi.
Je pense que c'est aussi un mouvement qui... moi, ce que je trouve très intéressant par rapport au territoire nantais, c'est que c'est un mouvement de découverte qui va dans les deux sens. Puisque l'idée, c'est, oui, nous, on se déplace, on va voir d'autres choses sur d'autres territoires, qu'ils soient proches ou loin, mais dans un second temps peut-être, mais que c'est quand même très présent, on amène aussi, du coup, des choses qui ne sont pas de ce territoire, et on essaye de faire découvrir, notamment, une scène jeune que tout le monde ne connaît pas encore, sur le territoire nantais, donc amener un peu de fraîcheur aussi, faire aussi en sorte que le public rencontre des artistes, rencontre des gens qui ont des sensibilités hyper diverses, qui s'inspire de plein de territoires variés. Et ça, je pense que c'est une richesse aussi qu'on a envie de perpétuer et de continuer à impulser.
Et une ambition aussi peut-être de co-travailler avec d'autres villes. Marseille, peut-être Rennes, enfin on y pense quoi. Être à l'aise en province en tant que galeriste ou en tout cas actrice de l'art, c'est aussi peut-être essayer de créer des fusions. Je crois qu'on... Quand on crée une équipe pour un festival ou pour un projet ici à la galerie, on sait très bien qu'on ne fait rien seul. Donc l'idée de faire grossir cette équipe, en gros, et que ça puisse, qu'on puisse co-travailler entre différentes villes, ça, je pense que c'est aussi une ambition qu'on a.
Oui, favoriser les échanges.
Oui, complètement. Ouais. En tout cas, on est ouvert à ça, ça c'est sûr.
Donc là, en ce moment, il y a une exposition qui est jusqu'au 1er mars. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer après ? Vous êtes encore en train de construire d'une fois sur l'autre ?
On a une vague idée. Déjà, je pense que le premier truc qu'on peut dire qui est assez chouette et important, c'est qu'on a décidé de prolonger l'exposition du moment d'une semaine. Donc finalement, elle se terminera le 8 mars. Et on a une petite idée. Alors, est-ce que cette idée est confidentielle ou est-ce qu'on révèle
en fait,
notre...
On a, comme vient de le dire Lise, on a une idée de notre programmation, puisqu'on a quand même déjà des artistes avec un planning de défini, mais on se laisse quand même des créneaux de disponibles pour être assez réactifs et programmer des expositions ou ce qu'on pourrait appeler des pop-up pour montrer soit des artistes, un travail en devenir ou une autre façon, d'autres choses au sein de l'exposition. Donc oui, on a une ligne sur l'année, mais il y a quand même des créneaux disponibles.
Oui, puis c'est vrai qu'on est attaché à exposer des artistes émergents, jeunes dans leur pratique, et aussi accueillir une marge de test ou de des projets qui ne sont pas complètement aboutis ou encore en recherche. Donc ça peut prendre place sous forme de pop-up ou même sur des solos. Notre première exposition, Oscar Lefebvre. J'étais très fière quand il parlait de ses toiles aux gens qui venaient visiter notre lieu en disant bah voilà, ça c'est un projet, je pense qu'il n'est pas encore abouti, je travaille pour. Et c'était exposé chez nous et ça, c'est quelque chose aussi qu'on accueille ici.
Bien sûr.
Et est-ce que vous avez prévu d'avoir des artistes récurrents ? Je parle de ça par rapport au terme galerie.
Artistes représentés. Pas à l'heure actuelle. Parce que ça voudrait dire qu'on se limite à une équipe peut-être de 10 artistes et ça impose direct une routine. Et nous, c'est pas notre souhait. En tout cas, pas à l'heure actuelle.
Je pense qu'il y a un intérêt aussi dans l'idée de lancer un espace ou de faire des propositions très variées et de peut-être pas tout de suite, peut-être que ça viendra. Mais là, l'idée aussi, c'est de faire connaître le lieu, que les gens s'y sentent bien, qu'ils voient des choses hyper différentes. Donc, de ne pas créer tout de suite une redondance aussi, peut-être, qui peut venir avec un principe d'artiste représenté, qui n'est pas forcément le souhait et une stratégie très intéressante pour l'audience actuellement.
Parce qu'on apprend aussi, surtout. On apprend, c'est quand même un projet récent, c'est un bébé galerie. Je pense qu'on a besoin aussi de faire notre expérience. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Le catapulte porte cette galerie et j'aimais bien aussi ce terme parce que l'idée, c'est de faire découvrir des projets jeunes et puis après, dans un compagnonnage, je pense que tous les trois, on a peur d'être un peu emprisonnés dans un concept un peu de ce type pour l'instant.
Et du coup, ça se passe de manière administrative et purement logistique, votre lien avec les artistes, comment ça se passe ?
On essaye de faire simple et efficace, parce que pourquoi faire 2 kilos de paperasse quand on peut faire simple ? Mais au niveau administratif, qui relie d'ailleurs au rapport au statut des artistes-auteurs, à ce genre de choses. Moi, je tiens, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que plasticienne, on parlait de safe place, de rendre ces lieux sûrs aussi administrativement parlant. Donc c'est une question qui me tient à cœur et qui est importante. Pour ça, on fait très simple, on fait des contrats qui ne sont pas du coup des contrats de représentation, mais des contrats d'exposition, avec des fiches pour le transport, avec tout est noté, on essaie d'avoir quelque chose de très complet, avec des assurances pour nos œuvres. Enfin, ça semble complètement évident, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les lieux d'art contemporain. De la même manière qu'il n'est pas normal de demander à un artiste de payer pour exposer, il n'est pas normal de lui demander d'exposer sans aucune garantie sécurité. En sachant que la sécurité d'un contrat apporte aussi une sécurité à l'espace d'exposition. Donc en fait, c'est simplement donnant-donnant et ça permet aussi de très bonnes relations avec les artistes, un très bon accompagnement. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne administrativement avec nos artistes.
Avec des frais de monstration. Donc, les artistes sont invités, donc on prend en charge les frais de déplacement, d'hébergement et plus des frais de monstration. Ces frais de monstration varient quand c'est un solo show ou un groupe show. Et tout ça, c'est très clair, c'est sur le contrat.
Donc il y a des frais de monstration plus les ventes.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout
okay.
à fait. C'est ça. Pourcentage classique de galerie.
Qui est ?
Le 50%.
Okay. Donc on fait comme ça un modèle assez classique. Ouais.
Et donc, si on veut avoir des informations sur la galerie et si on veut s'informer sur l'actualité des expositions, si on veut avoir des contacts...
On a tout. On a tout. On a le site internet, Instagram, Facebook, on est même maintenant sur AllReadyMed. Sinon, il faut venir 19 rue des Carmélites. Élise vous accueillera avec grand plaisir.
Ça reste le plus efficace, hein, parce que ça permet de voir les œuvres en même temps.
Ça, c'est le mardi, vendredi et samedi.
Ouais. Mardi, vendredi et samedi, 11h, 19h, en continu.
Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur notre site. Il y a un contact et vous mettez votre adresse mail et Élise vous enverra une newsletter.
Avec toutes les infos.
Voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir les informations.
Ça, et puis le Instagram de la galerie, où on essaye aussi d'avoir une belle plateforme. On sait que c'est une plateforme qui est très utilisée dans le milieu de l'art contemporain actuellement, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais du coup, on est quand même beaucoup présent sur cette plateforme et on informe beaucoup des événements, des actualités. Je dirais que le site et Instagram sont les deux plateformes qui permettent le plus de connaître nos actualités. Et il y a nos horaires d'ouverture dessus, c'est voilà, très évident, très simple.
Très bien, bien, merci pour toutes ces présentations. On va rester encore un peu ensemble puisque je suis ici et j'ai très envie de découvrir l'exposition et d'en savoir un peu plus sur le travail de Gaspard Girard d'Albissin et son exposition sans titre que vous présentez donc jusqu'au 8 mars. Donc on va encore rester un peu ensemble avec Élise et Wilfried et Annelise. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous souhaite de très belles choses et de très beaux projets pour cette nouvelle aventure de la Scroll Gallery et de l'association Scroll. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée.
Merci à toi Marine, merci pour l'invitation. Bonne soirée à toi.
Merci beaucoup et à très bientôt aux prochaines expositions. Marine, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur JetFM 91.2. Nous sommes en train de découvrir la Scroll Gallery, en compagnie d'Annelise Ledot, Wilfried Pasquier et Élise Berconti. Nous allons écouter un morceau diffusé lors de la soirée performance et concert du 6 janvier 2024, qui a eu lieu au cours de l'exposition collective « À nos corps lichens », présentée à la Scroll Gallery. Ce morceau s'appelle « Secret Words and Magic Stones », réalisé par Evan Lode, feat. Aster. Toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur JetFM 91.2. Nous sommes en train de découvrir la Scroll Gallery et on va visiter l'exposition qui y est présentée actuellement, qui s'appelle Sans titre de Gaspard Girard d'Albissin avec Élise Bergonzi. C'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors donc on est toujours avec Élise en train de découvrir l'exposition sans titre de Gaspard Girard d'Albissin dans la Scroll Gallery, 19 rue des Carmélites à Nantes. Donc Élise, je vais te suivre. Est-ce que déjà tu peux nous décrire l'espace d'exposition ? Donc quand on rentre dans la Scroll Gallery, on arrive dans un espace, mais les auditeurs et auditrices ne peuvent pas le voir pour l'instant.
Alors, déjà, je pense que c'est chouette de parler très rapidement de la rue. On est donc 19 rue des Carmélites. C'est une toute petite rue dans le centre-ville qui est assez chouette parce qu'elle est située à côté du cinématographe, du café du cinéma, du Saint-Jean-d'Hiver, du Chien Stupide, qui sont des espaces très vivants où beaucoup de monde se retrouve. Et on a la chance d'avoir une très jolie vitrine, très jolie façade qui, selon moi, donne envie de rentrer. Voilà. Et donc, quand on passe la porte de la galerie, on passe donc une porte vitrée et on se retrouve dans une première salle. On est sur un format de galerie, on ne va pas se mentir, assez classique, assez white cube. C'est une galerie qui n'est pas si grande, mais pas si petite. Première salle fait 35 mètres carrés à peu près. Puis on a une deuxième salle qui est en fait semi-ouverte avec juste deux alcôves qui permettent de passer d'une salle à l'autre. Deuxième salle qui fait un 25 mètres carrés à peu près, qui sont des formes assez cubiques, avec des murs blancs, très standards finalement. Et en ce moment, sur les murs de cette galerie, nous avons donc les peintures de Gaspard Girard d'Albissin. Et on a aussi quelque chose d'un peu spécial qui est dans notre espace de vitrine. On a eu le plaisir de travailler en collaboration avec le magasin Baraque, qui est un magasin qui se trouve juste à côté. On travaille avec le quartier. C'est un magasin qui vend des meubles design, notamment du XXe siècle. Très beaux meubles. On leur fait un joli clin d'œil, on les remercie pour leur intervention. Ils nous ont donc prêté du mobilier pour une installation avec un fauteuil en cuir, une table très design, une lampe. Il y a même un cendrier un peu coloré, un peu massif, dans lequel traînent encore deux mégots, puisque en fait cet espace était et est toujours destiné à accueillir le live qu'il y a eu lors du vernissage de l'exposition. Un live de l'artiste Bernardino Feminelli, qui est venu donc chanter pour nous. Et Bernardino Feminelli, c'est quelqu'un qui fait des lives assez rocambolesques. On vous invite à aller écouter et à voir ses vidéos. Un artiste qui est venu sabrer le champagne en plein live, fumer une gitane. Voilà, ça va dans son style. C'était joyeux, c'était vivant. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de créer comme ça un espace qui reste après pendant toute l'exposition et qui participe aussi à l'ambiance. En parallèle de cet espace, dans le reste de la galerie, on a une série de peintures dans la première salle. Je vais les compter 6, 7... Cette peinture, 8 peintures dans cette salle, qui sont donc les peintures de Gaspard Girard d'Albissin, un artiste qui travaille à Paris, dans les ateliers du Wonder, qui sont des ateliers d'artistes à Bobigny, où il y a une tripotée d'artistes là-dedans, qui sont très nombreux, c'est une grande famille, c'est là-bas qu'on l'a découvert. Et Gaspard, c'est un jeune artiste, une petite trentaine d'années, qui fait de la peinture figurative à l'huile, donc toutes les peintures qui sont dans la galerie sont à l'huile, sur des formats que je qualifierais de moyens, ni trop grands ni trop petits, plutôt des formats carrés, un tout petit format paysage ou des formats portraits. Mais aucun portrait sur les murs, aucun visage. Peut-être que je peux parler de celui-ci, qui est assez intéressant pour son histoire, parce que c'est un tableau d'un format assez modeste. Il doit faire une cinquantaine de centimètres de haut sur une trentaine. Je n'ai pas les dimensions exactes en tête, mais qui représente sur un fond vert assez flou. On ne sait pas trop ce qu'on regarde. On peut y voir un tissu ou des algues où le fond est assez flou. Et il y a surtout une main tendue, comme si c'était notre main qui se tendait dans le tableau. Et sur cette main est posé un petit oiseau. Petit oiseau bleu avec une tête jaune.
Petite perruche.
Petite perruche, ouais, on pourrait. Je n'ai pas la certitude qu'il s'agit d'une perruche, mais c'est bien possible, en effet, ça ressemble à une perruche. Et en fait, voilà, je pense que ce tableau, c'est un des tableaux qui illustre bien la manière dont Gaspard travaille. Quand je suis allée visiter son atelier, tous les tableaux sont posés au sol et ils racontent tous une histoire. Mais une histoire très évidente, très ténue finalement et très tendue, puisque Gaspard il se pose pas 5 ans la question de savoir pourquoi il peint. Il réfléchit pas 1000 ans à une image. Ce qui l'intéresse, c'est de chiner les images.
Donc il va sur Internet, notamment sur des moteurs de recherche comme Yandex, où en fait il tombe sur des images. Et Gaspard, il tombe sur une image et elle lui plaît. Et il ne se pose pas la question de savoir pourquoi elle lui plaît. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il arrive à capter de l'image. Et là, l'envie de peindre naît. Par exemple, cette peinture dont je parlais avec ce petit oiseau a une histoire. Son histoire est très simple, c'est que Gaspard est tombé en arrêt devant ce type de peinture en allant chiner dans les skyblogs des amateurs d'oiseaux, donc c'est vraiment des photographies plutôt d'amateurs, que lui vient mettre en peinture, et c'est ça qui l'intéresse. C'est le fait que l'image qu'il a prise initialement n'est pas une image faite pour être esthétisée. Ce qui l'intéresse, c'est le cadrage un peu pourri, le fait que sans doute la photographie était un peu floue parce que prise avec un petit appareil compact dans les années 2000-2010, et c'est tout ce récit de l'inattendu, de l'un peu raté et de l'imperfection qu'il séduit dans l'image. C'est le cas pour ce tableau, mais on peut en citer un autre qui se trouve de l'autre côté, en face, sur le mur d'en face de la galerie. Un tableau un peu plus grand, d'un format assez carré, et qui représente une main, mais vraiment en contre-plongée, assez présente, puisqu'elle prend toute la place du tableau. Et sur cette main, une collection de bagues, de grosses bagues, de bagues hyper shiny, avec ornées de pierres, sans doute des pierres semi-précieuses. Gaspard est très doué avec sa touche pour ramener ce côté shiny de l'image, pour lui donner une présence. Et cette peinture a toute une histoire qui est reliée à un autre tableau qui est juste en face, dans la galerie, qui est un buste avec un chemisier, un buste un peu nonchalant, qui porte un chemisier de satin. Et en fait, ces deux peintures sont reliées par la manière dont Gaspard les a trouvées. Gaspard a commencé à tomber sur une image d'un chemisier en satin, puis il en cherche une autre. Il veut s'assurer que c'est l'image qu'il veut peindre. Et de fil en aiguille, en tombant d'un site à un autre, un peu par intuition et aussi par hasard, il se retrouve sur, m'explique-t-il, sur des sites de militaires malaisiens ou indonésiens. Il y a un doute, il n'est pas sûr, il ne se souvient plus trop. Mais il tombe là-dessus et il se retrouve en fait dans une aventure de textures satinées. Et entre toutes ces textures satinées, cette main pleine de bagues que nous avons du coude sur l'autre mur de la galerie. Et il tombe en arrêt devant cette image-là, qu'il vient peindre de la même manière qu'il peint ce chemisier en satin. Et pour Gaspard, souvent, c'est la première image qui est la bonne. Il en chine d'autres, il cherche la bonne image. Et en fait, pour une question de composition, pour une question de hasard de rencontre aussi, sans doute, la première image est souvent l'image privilégiée, l'image percutante, quelque chose qu'il vient traduire en peinture par la suite.
Moi j'ai une petite question, est-ce que tu as pu discuter avec lui de ce choix justement de passer les images en peinture? Pourquoi du coup il passe par ce médium et pourquoi il ne présenterait pas justement les images brutes et pourquoi il opère ce transfert de médium?
Eh bien je pense que d'abord parce que son médium est celui de la peinture. Gaspard c'est pas quelqu'un qui a fait une école d'art, c'est quelqu'un qui a appris par lui-même la peinture, qui a travaillé et travaillé pour rendre sa peinture extrêmement figurative. On n'est pas du tout dans quelque chose de flou, on reconnaît immédiatement ce qu'on regarde dans l'image. Et je pense que ce choix de médium est une évidence pour lui. Voilà, ce choix-là est traduit de cette manière-là. Et d'autre part, je pense que Il aime ces images, il aime la manière dont il les cherche, la manière dont il les trouve. Dans l'atelier, il a son ordinateur avec lui et il me montrait sa banque d'images. Et je pense qu'il y a cette fascination pour la collection aussi d'images et que pour lui, ce qui est intéressant, c'est aussi de chercher à la reproduire, d'aller à la justesse de l'image et de lui rendre aussi quelque chose d'un peu mystique, un peu planant, un peu fantastique. Je suppose, je me permets d'interpréter, j'ai l'impression que pour lui, c'est l'idée de faire percevoir le plaisir qu'il a eu de tomber sur cette image sur laquelle il aurait pu complètement passer à côté. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que vient le plaisir de peindre, l'attention aux détails, l'attention à la présence que peut avoir une image aussi simple que une pauvre image trouvée sur un skyblog par des amateurs d'oiseaux. Je pense que ça vient de là.
Parce qu'après, il y met quand même... déjà, il y a le travail de sélection qui fait que même si c'est des images à la base amateurs, etc., il y a quand même un souci de cadrage, il y a quand même un, enfin, les images certaines sont centrées, il y a quand même un travail de la lumière qui est présent. Donc j'imagine qu'il met quand même un petit peu de subjectivité, la sienne, enfin son interprétation quelque part. De toute façon, c'est forcément une interprétation puisqu'il transforme les couleurs. Les...
Absolument. Et c'est aussi la manière dont il définit le concept d'image privilégiée. C'est lui qui a utilisé ce terme. Je pense que c'est un terme qu'il affectionne particulièrement dans ce rapport justement à la subjectivité qu'une image peut procurer. Si je prends l'exemple d'une autre peinture qui est un peu plus loin dans la galerie, où on a Dennis Rodman de dos, basketteur Dennis Rodman, donc un basketteur très connu qui est sorti avec Madonna, entre autres. Voilà. Et je sais que Gaspard, pour les coupes de cheveux très particulières de Dennis Rodman, il avait très envie de peindre Dennis Rodman. Mais il fallait trouver la bonne image pour peindre Dennis Rodman. Donc il a cherché cette image, et après, bien sûr, une fois qu'il est tombé sur la bonne image, c'est là qu'entre toute la subjectivité. Et par rapport au cadrage, cette image est intéressante parce que, comme certaines autres qui sont présentes dans la galerie, il y a en bas de l'image une grande bande verte, d'un vert un peu acide, assez péchu, qui vient en fait non seulement souligner la composition et créer des lignes très précises qui sont aussi les lignes utilisées en photographie par le capteur photographique des appareils, notamment les appareils numériques, qui créent en fait une grille pour l'œil qui permet de repérer l'œil dans l'image et qui donne à l'œil une stabilité, qui permet à l'œil de stabiliser ce qu'il regarde et de comprendre l'image. C'est quelque chose que Gaspard a beaucoup cherché, et là on voit le travail du peintre qui se pose la question de comment rendre son image efficace. Donc il y a cette lignée-là pour ce travail de composition et aussi pour ce travail de couleur, parce qu'on va entrer avec l'opposition du jaune péchu des cheveux de Dennis Rodman et de ce bleu aussi. Et ces échanges de couleurs, ces contrastes, donnent aussi de l'impulsion à l'image, de la vivacité. C'est quelque chose qu'il faisait sur des peintures plus anciennes. Sur ces dernières, il a décidé de supprimer ces bandes et ces découpes parce que, et c'est là qu'on voit aussi encore une fois la précision du peintre et l'envie de chercher à être juste, il avait peur de tomber un peu dans cette facilité de ce jeu avec le cadrage qu'une bande de couleurs amène, et il s'est donné le challenge de faire tenir ces images dans leur espace de la toile sans cette forme qu'on pourrait définir comme une béquille, mais qui fonctionne très bien.
Du coup, il y a deux approches, ouais, qui cohabitent dans l'espace d'exposition.
Tout à fait.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. Nous sommes en train de découvrir la Scroll Gallery et de visiter l'exposition qui y est présentée actuellement, qui s'appelle Sans titre et qui présente le travail de Gaspard Girard d'Albissin avec Élise Bergondi. Nous allons écouter un morceau diffusé lors du concert live du 26 janvier 2024 pour le vernissage de l'exposition que nous sommes en train de visiter. Ce morceau s'appelle « La vie, Gigi » de Bernardino Feminili. Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. Nous sommes en train de découvrir la Scroll Gallery et on va continuer de visiter l'exposition qui y est présentée actuellement, qui s'appelle Sans titre, de Gaspard Girard d'Albisson, avec Élise Berganzi. Je suis en train de me tourner et je vois une non-toile, mais une grille avec des couleurs, etc. Je me permets de demander.
Tout à fait. On a dans cette galerie le plaisir d'avoir deux œuvres que nous conservons de manière permanente. La première, à laquelle tu fais référence, est une œuvre dont Wilfried a cité l'artiste tout à l'heure. Il parlait de Lou Masduro, qui est donc une artiste française qui travaille à Genève depuis un bon moment et qui nous a... donner ce plan d'évasion, donc c'est le titre de l'œuvre, qui est une grille en céramique recouverte de tissu et qui fonctionne exactement de la même manière qu'un soupirail. La grille est intégrée dans le mur à la manière des soupiraux dans les anciennes maisons notamment, qui sont dans les demi-hauteurs quasi au niveau du sol. Et Lou Masduro est une artiste qui fait comme ça des séries, entre autres œuvres évidemment, de soupiraux, absolument magnifiques selon moi, et qui propose en fait un regard un peu voyeuriste. On a voulu conserver cette œuvre de manière permanente dans la galerie et elle vient s'intégrer à l'endroit d'un ancien four, un four à pain à l'ancienne qu'il y avait dans l'atelier de l'artiste qui occupait les lieux précédemment. Et l'autre œuvre que nous avons en permanence dans la galerie avec nous est Mon bureau, réalisé par Céleste Richard-Zimmermann, une artiste nantaise que nous avons pu célébrer lors de la précédente exposition à Nocorliken. C'est une œuvre assez imposante puisqu'il s'agit d'un grand champignon fait d'une structure en polystyrène et recouvert de plusieurs couches de résine jusqu'à en obtenir une forme très organique et alvéolaire. Qui est donc poli avec de la graphite et de la poudre de marbre. Et donc ce champignon est un peu l'espace symbole de la galerie, puisque ça a été une commande lors de l'ouverture de la galerie à cet artiste qu'on affectionne particulièrement et qu'on salue au passage. Voilà, et donc cette œuvre, elle nous accompagne au quotidien. Et c'était important pour Wilfried et Annelies d'avoir une œuvre dans la galerie qui soit une œuvre aussi symbole et qui joue avec cette idée du bureau, souvent soit très Ikea, très basique et très terne, soit très art déco, enfin peu importe, qu'on peut trouver dans les galeries. On voulait quelque chose de symbolique. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc oui, après cette petite parenthèse sur les œuvres permanentes de l'espace de la Scroll Gallery, qui vient dialoguer avec l'exposition en cours, donc sans titre. Pourquoi sans titre l'exposition de Gaspard ?
C'est très simple. on a beaucoup discuté avec Gaspard pour travailler à un titre qui nous semblait cohérent et commun. Ce qu'il y a d'assez fun avec Gaspard, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va déblatérer pendant 5 heures sur son travail, ce n'est pas quelqu'un qui va y mettre énormément de... Je dirais pas de référence, mais de théorisation, de choses comme ça. Donc, trouver un titre, c'est avéré un peu un méandre infini, parce que c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la littérature et l'esthétisme. Ça se voit quand on regarde les tableaux, d'ailleurs. Il fallait trouver un équilibre parmi tout ça. On s'est arraché les cheveux pendant un bon moment, et rien ne semblait vraiment faire sens. Donc, on est revenu à l'essentiel, et quand on a sélectionné les œuvres déjà, et vu la liste qu'ils nous avaient transmise, toutes les œuvres s'appellent sans titre. Sans titre, sans parenthèse à côté pour dire quelle œuvre et quoi, sans titre. Et donc, on a décidé qu'il était plus drôle, plus évident et plus simple aussi. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête trop longtemps, et on a appelé l'exposition sans titre.
Ça paraît logique. Et donc, du coup, l'expo sans titre, il y a un visuel qui est avec, qui a été choisi pour représenter l'expo. Et c'est une pièce qui est juste à l'entrée, à gauche, en entrant de la galerie. Est-ce que tu peux juste m'éclaircir sur cette image ?
On a choisi ces petits souliers parce que, un peu de la même manière que Gaspard pense ses peintures et choisit ses images, coup de cœur. C'est une petite œuvre en paysage avec des souliers rouges hyper shiny, un peu cuir, et des collants un peu verdâtres sur quelque chose qui ressemblerait à, je dirais, une carpette, un tissu un peu chic. Et encore une fois, cette peinture est le récit, le résultat d'une anecdote. Gaspard est tombé sur cette image en faisant une capture d'écran des pieds de Jude Law dans la série Young Pope.
Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus d'explications, ça ne va pas chercher très loin, il a juste adoré cette image qui fonctionne en fait telle qu'elle est, l'a découpée, l'a récupérée, et nous on a adoré, et on en a fait notre visuel.
Donc ce ne sont pas les pieds de Hulk ?
Bah non, bah non, absolument pas, ça aurait pu.
Juste du pape.
Juste du pape, ouais, de Jude Law qui joue le pape.
Très bien. Et du coup, si on se déplace dans l'espace d'exposition, donc on tombe sur toi, Élise, qui est là pour nous expliquer les œuvres comme tu viens de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres supports qui nous permettent de comprendre un petit peu ? Est-ce qu'il y a un texte ? Est-ce que vous avez opté pour quoi, la Scroll Gallery ?
Eh bien, nous, on a opté pour un modèle qui se veut à la fois, j'ai envie de dire, efficace et écologique. On essaie d'avoir le moins de formats papier possible. Parce qu'on estime que ce n'est pas forcément nécessaire. On imprime quand même évidemment un texte d'exposition que j'ai eu le plaisir d'écrire et j'espère en rédiger d'autres. C'est ce qui est prévu. Et donc il y a bien un texte sur cette exposition qui explique, voilà, qui donne quelques clés de lecture. Donc ça, c'est si vous venez directement dans l'espace d'exposition pour voir les œuvres, vous pouvez repartir avec un petit texte et un plan de salle. Et évidemment, sur Instagram, on met des bribes de ce texte, on met quelques informations. Et bien sûr, le site internet nous permet d'avoir une archive une fois que l'exposition sera passée aussi. Voilà.
Et si on veut venir voir l'exposition, donc on a parlé tout à l'heure un petit peu des détails pratiques, mais on peut les rappeler ici. Quand est-ce qu'on peut venir la voir et sur quel horaire ?
Alors, l'exposition est ouverte les mardis, les vendredis et les samedis. De 11h à 19h en continu. Et vous êtes les bienvenus.
Très bien. Et jusqu'au 8 mars.
Et jusqu'au 8 mars, tout à fait. Une prolongation d'une semaine.
Et après, la prochaine exposition, ce sera ?
Après, on aura le plaisir d'avoir France Parsus, qui est une artiste nantaise. On a hâte.
Et qui débutera l'autre exposition à peu près ?
Elle débutera et ben, la semaine d'après. La date commence à m'échapper, mais je dirais le 15 mars.
D'accord, donc deuxième semaine de mars à peu près, à suivre sur les réseaux et vos différents supports de communication. Et
puis en passant à la galerie, on a le plaisir de vous informer de la suite, évidemment.
Ça marche, et sur l'agenda already made aussi.
Et voilà.
Très bien, merci beaucoup Élise pour toutes ces informations. Je vais te laisser et puis je te souhaiter une bonne soirée et puis une bonne continuation pour tous ces projets. J'invite les auditeurs et auditrices à se déplacer dans l'espace d'exposition et venir découvrir l'exposition sans titre en cours de Gaspard Gérard d'Albissin. Et voilà, et je te souhaite une très bonne soirée et te dis à tout bientôt.
Merci Marine, merci beaucoup pour cette interview, c'était un plaisir. Merci pour tout ce que tu fais d'ailleurs, je trouve que c'est des très belles initiatives. Et puis au plaisir de vous voir tous et toutes dans la galerie bientôt, et au plaisir de toi et moi nous revoir un de ces quatre dans d'autres circonstances.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir.
C'était Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. Nous venons de découvrir la Scroll Gallery en compagnie d'Annelise Le Dot, Wilfried Pasquier et Élise Bergonzi, qui nous ont présenté le projet associatif et son lieu d'exposition. Puis nous avons visité l'exposition qui y est présentée actuellement, qui s'appelle Sans titre, de Gaspard et Girard d'Albissin. Cette exposition est visible jusqu'au 8 mars 2024. Et elle est ouverte le mardi, le vendredi et le samedi de 11h à 19h, ou sur rendez-vous. Je remercie chaleureusement la Team Scroll pour ces riches échanges et cette présentation étoffée. J'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir ce lieu et les expositions qui y sont présentées. Cette émission a été produite par l'association Already Made, réalisée par Marine Combe. Chères auditrices et auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous dans 2 mois pour continuer de regarder avec les oreilles.